Ah, un homme qui a vécu à Troyes en France, de 1040 à 1105, Achille dans les initiales de Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, notre maître Salomon, fils d'Isaac.
Je crois que ça vaudra la peine un jour, mais je pense le faire l'année prochaine au cours des cours qui auront lieu, merci HM, à partir de novembre, consacrer un cours à la biographie de Rachi. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. En tout cas, Rachi, donc, 1040-1105, il est utile de dire qu'à l'époque, il n'y a eu que des manuscrits, mais le premier livre hébreu à avoir été imprimé est en 1475, le Roumash avec Rachi. C'est le premier livre. Pardon ? 1475. Rachi a donné lieu à des commentaires, enfin ce qu'on appelle des super commentaires, nombreux, puisqu'on les évalue à 200 environ. Sans compter le fait qu'il n'existe pas pratiquement de commentateur qui ait fait son propre commentaire, qui d'une façon ou d'une autre ne s'appuie pas sur Rachi ou ne le cite pas. Parmi ces commentaires, dont certains sont très précoces, il existe quatre qui sont en général réunis aujourd'hui dans un livre qui est celui dont vous avez la photocopie devant vous, et qui sont quatre commentateurs privilégiés. L'un, Mizrahi. Le Mizrahi, qu'on appelle aussi le Rehem, de ses initiales, Eliyahu Mizrahi, Rabbi Eliyahu Mizrahi, et qui a vécu environ de 1450 à 1526 à Constantinople. C'était un juif originaire de Constantinople, qu'on appelait les Juifs romanites par opposition aux réfugiés d'Espagne, et qui a été, à la mort du grand rabbin de Constantinople, est devenu de facto le grand rabbin de l'Empire ottoman. Le titre n'existait pas encore à l'époque, mais il a été le grand rabbin de l'Empire ottoman.
Le Haram Bashi.
Oui, mais ce titre n'existait pas encore à cette époque, justement. Et c'est un homme qui... pour vous situer simplement ce qu'était la vie d'un rave, même avant l'époque des Lumières, il passait sa journée, c'est passé de la façon suivante, il s'occupait des affaires de la communauté. Deuxièmement, il répondait aux questions de tout ordre, religieuses ou profanes, qui lui étaient posées. Il recevait des questions du monde entier. Il était reconnu comme le plus grand possèque, le plus grand décisionnaire de son temps. Il dirigeait une yeshiva. Il y enseignait le Talmud. Il enseignait également des sciences profanes. On connaît ses maîtres. Il a eu en particulier enfin, des maîtres pour la Torah et des maîtres pour les sciences profanes. Il s'occupait des réfugiés d'Espagne, car n'oubliez pas que 1450-1526, il y a entre-temps 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il s'occupait beaucoup des hommes de la communauté Espagne. Il également s'occupait des Karaïtes. En particulier, il a été un des rares à accepter dans sa yeshiva des Karaïtes et leur enseigner la Torah orale. Sur le plan de la halakha, il s'opposait, pour des raisons religieuses, au mariage entre Karaïtes et Rabbanites. À côté de cela, il écrivait. Il écrivait donc les responsables aux questions et on a édité de lui plus de 120 Shalom Tshuva. Et il faisait également des commentaires. Sa grande œuvre, c'est son commentaire sur Rachi, qui se trouve dans cette édition sous le nom de Mizrahi, du nom de l'auteur, et qui a été édité par son fils Israël en 1527, c'est-à-dire un an après sa mort. Avec tout cela, il a écrit également un livre de mathématiques, Sefer HaMispar, qui a été d'ailleurs traduit en latin. Donc là, c'est l'inverse, on ne traduit pas des livres de latin en hébreu pour connaître la pensée profane, mais elle traduit en latin, cette œuvre apparue de son vivant en 1521. Il a écrit également un commentaire sur les œuvres de Ptolémée, et il a écrit un commentaire sur Euclide. Voilà, ce pouvait être au XVe siècle, dans l'Empire ottoman, la vie d'un rabbin. À côté de ça, il faut signaler que cet homme était malade, avait une très mauvaise santé, qu'il était pauvre, il avait des problèmes financiers, et qu'il a eu des grands malheurs personnels, la mort prématurée de sa femme, la mort d'un de ses fils. Le deuxième fils a été obligé de se sauver parce qu'il avait été faussement accusé d'avoir eu l'intention de se convertir à l'islam alors qu'il était grand malade. Et cette calomnie l'a obligé finalement à se sauver. Il y aurait beaucoup à dire sur M. Mizrahi, qui a eu également des aides importantes, vraiment pour vous le situer. Par rapport à la Kabbalah, il n'était pas kabbaliste et il ne voulait pas que l'on se serve de la Kabbalah pour fonder la Halakha, mais c'est une position qui est partagée par un certain nombre de commentateurs, et il ne voulait pas non plus introduire la Kabbalah dans la Tfila de la liturgie. Un autre texte, un autre commentateur qui se trouve donc sur cette page, c'est Gour Arié. Le nom de Gour Arié, le lionceau, c'est un commentateur du Maharal. Bon, là également, nous avons souvent parlé du Maharal au cours des séminaires, et on peut récapituler sa vie aussi. Le Maharal a eu finalement une vie relativement simple. C'est une vie, elle, qui n'est pas une vie dramatique. Le Maharal a vécu, on ne connaît pas bien la date de sa naissance, selon certains, il serait né en 1512. Et commencé clairement en 1609, il aurait été presque centenaire. D'autres historiens disent que c'est plutôt autour de 1525 qu'il serait né. De toute façon, il est mort à un âge assez avancé. Le Maharal sort d'une grande famille. Alors lui, on ne connaît pas ses maîtres. Il y a quelque chose de curieux, on ne connaît pas ses maîtres, mais quand on lit ses œuvres, on voit qu'il a été obligé d'avoir des maîtres. Et des maîtres authentiques. Et le Maharal, eh bien, sa vie, il sort d'une grande famille. Son père était le beau-père du grand-père du maréchal Salomon Luria, qui a été un très grand halakhiste et kabbaliste. Et
c'est qui a pas eu la même galerie.
Qui n'est pas la même galerie. Et qui a eu pour élève Salomon Luria, non pas Isaac Luria, Salomon Luria, qui a eu pour élève Mordechai Yaffe, dont nous en parlons tout à l'heure, et le Kliyakar, dont nous parlerons beaucoup dimanche. Eh bien, le Maharal, sa vie, bon, en trois mots, Prague, et puis, ou la Moravie, ou Posen, c'est discuté l'historien, de nouveau Prague, de nouveau Posen, de nouveau Prague, jusqu'à ce qu'en 1599, il échange son poste avec celui de Mordechai Yaffe. Et que Mordechai Yaffe retourne à Posen, et que le Maharal revient à Prague, où il vivra jusqu'à la fin de ses jours. Bon. La vie du Maharal, là aussi, pourrait y consacrer un jour un cours. Et le Maharal a publié, surtout très tard, dans sa vieillesse, toutes ses œuvres publiées dans sa vieillesse, le premier livre à avoir été publié et son commentaire spécifique sur Rashi, le Gour Arié, qui a été donc...
Il n'a pas écrit,
qui a été publié en 1572, si mes souvenirs sont exacts, mais je peux le vérifier tout de suite. En tout cas, bon, j'ai oublié de noter, le Gour Arié, ça veut dire le lionceau, et qui a été publié en 1578 à Prague. Le troisième commentaire que vous n'avez pas par hasard sur cette page, mais qui figure en général bon, sur les pages, c'est le commentaire de Mordechai Yaffe, qui a vécu environ de 1535 à 1612, qui est donc un contemporain un peu plus jeune du Maharal, qui lui est connu à la fois comme halakhiste et comme kabbaliste, qui a été envoyé par ses parents en Pologne, où il a étudié justement dans la yeshiva de Salomon Luria, le maréchal, et qui a été obligé de fuir en Italie en raison des pogroms qui ont eu lieu en Pologne, où il est revenu ensuite finir sa vie à Posen. Il a bien connu le Maharal, puisque nous avons vu qu'ils ont échangé leur poste de grand rabbin. Et je dis ça très schématiquement, bon, il faudrait revoir ça en détail. Il a passé 50 ans de sa vie à écrire le Malchut, le Vouch, qui est sa grande œuvre, dont la sixième partie, c'est le Vouch à Ova, c'est-à-dire spécifiquement un commentaire sur Rashi. Le livre a été publié, l'ensemble du livre a été publié entre 1590 et 1604. Je ne sais pas, je n'ai pas pu vérifier exactement si 1604 correspond à la publication d'œuvre complète, ou la sixième partie, enfin, le bouquin entier apparu entre 1590 et 1604. Enfin, nous avons Sifte Chachami, mais ça je crois que la plupart des gens connaissent, parce que même dans les Bibles normales, ordinaires, Mikrot, Gedolot, lorsqu'on a simplement Rashi, Ibn Ezra, Rambal, on a à côté Sifte Chachami. Et Sifte Chachami est l'œuvre d'un monsieur qui s'appelait Shabtai Ben Yehuda Bas. Bas, c'est son surnom, parce qu'il était né en Pologne, à Kalisz, et il a vécu lui beaucoup plus tard, de 1641 à 1718, et au cours d'un pogrom, toute sa famille a été assassinée. Il a pu sauver avec son frère, il est arrivé où ? Bien à Prague aussi, où il a été engagé comme choriste par le chantre de l'époque, le chasme de la synagogue, la Altmeuchul, d'où son nom de Bas, son surnom de Bas, par Meshorer en hébreu, il signait Meshorer en hébreu. Et alors, cet homme très curieux de nature, a été un des premiers à faire de la bibliographie. Et pour cela, il s'est mis à voyager. Il faut dire qu'il avait une bonne connaissance profane. Il avait appris, donc, à Prague, il a appris le Talmud, il a appris aussi le latin, les sciences profanes, et il s'est mis à voyager. Il a fait la Pologne, l'Allemagne, la France et Amsterdam pour rechercher les manuscrits. Il s'est fait la main, si j'ose dire, en éditant d'abord une édition corrigée, amendée, de différents commentaires en yiddish sur la Torah. Bon, il a réédité une œuvre connue à cette époque. Et puis, en 1680, il a eu l'idée de rassembler une sorte de morceau choisi. Et dans la Cité Ramie, on trouve essentiellement donc des extraits des principaux commentaires sur Rashi qui lui sont antérieurs. C'est pour ça que le Mizrahi était souvent cité, d'ailleurs, Sefer Hamim, ce nom de Rohem. Et en 1680, il a édité, parce qu'entre-temps, il a eu l'autorisation du gouvernement d'ouvrir une imprimerie hébraïque, et il a édité la Bible avec Sefer Hamim en 1680. Il a d'ailleurs également publié une des premières recensions des ouvrages des hébraïques et judaïques existants à l'époque, plus de 2000, en donnant également le titre, l'auteur, la date de publication, le contenu, l'intérêt du bouquin, etc. Et donc, en 1680, il y a eu son... Voilà, si vous voulez, en quelques mots simplement, pour situer ces quatre commentaires. Rashi, donc, est du XIe siècle. Le Mizrahi, qui vit dans l'Empire ottoman, est du XVe siècle. Le Maharal et le Levush Ahora sont pratiquement contemporains. Le Rav Yaffe connaît très bien le commentaire du Maharal puisqu'il le cite lui-même très souvent dans son commentaire. Enfin, cite Ramim, qui est un des morceaux choisis là où il semble qu'il soit indispensable d'apporter un super commentaire, eh bien, ça a été fait par Bass.
Bien, merci beaucoup. Et simplement un petit complément, c'est qu'en général, dans les chumashim usuels que vous avez, le Sifter HaRamim n'est pas imprimé en entier, mais il y a un Ikar Sifter HaRamim, c'est-à-dire une sorte de digeste du Sifter HaRamim lui-même. De quoi vous avez Ikar Sifter HaRamim?
Et ça, on a mis le
pas dans les crocs de l'or, bien sûr. Bien. Et je vous signale d'ailleurs qu'une nouvelle édition du Mizrahi, comme on l'appelle, est sorti il y a quelque temps avec des compléments et des ajouts d'énormément de commentaires de synthèse qui étaient restés en manuscrit jusqu'à l'époque contemporaine. Et pratiquement chaque année, il y a de nouvelles éditions qui paraissent avec des ajouts de... Bon. Alors voilà comment ça se présente, le Mizrahi. Vous n'avez pas le texte de la Torah. Vous n'avez pas le texte de Rashi. Et ça commence directement par le commentaire du Réhem, Rabbi Eliyahu Mizrahi, sur Rashi. Et je vais schématiser notre problème. Le Réhem va mettre en compétition l'enseignement de Rashi que nous avons eu donc avant-hier. Non, hier. Bon, enfin, Rashi. Oui. Que vous rappelez, nous l'avons étudié au tableau. Et que vous avez donc dans la page qu'on vient de... Bref. Avec les citations de Maïmonide que nous avons étudiées hier et aujourd'hui. Et le Maharal ne va pas du tout tenir compte de la controverse mise en œuvre par le Réhem entre Rashi et Maïmonide et va expliquer Rashi exactement comme nous l'avons lu ce matin dans Maïmonide lui-même. C'est trop compliqué ? Bon, ça va s'arranger. Alors voilà, vous allez prendre le Réhem sur Vayu Advarim Ha'ele, tel que Rashi l'a expliqué. Vous l'avez là, dans la deuxième colonne du Réhem. Vav. Vav. Oui. Alors, je suis désolé, ce sont des très petits caractères. On n'a pas eu le temps de vous préparer une édition plus. Et moi-même, d'ailleurs, je vais être obligé de le faire. Alors, je crois que maintenant, nous avons suffisamment lu pour pouvoir lire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Lire directement. Alors, c'est à vous, s'il y a une question quelconque de vocabulaire ou de sens qui se pose, de m'arrêter, le cas échéant, mais je vais me borner à l'habitude. Alors, « Ve'ayu advarim ha'ele », ça c'est le verset lui-même, « et seront ces paroles que je te prescris aujourd'hui. » C'est le verset 6 du chapitre 4 du Deutéronome. Et Rachid nous avait dit, « Mahoua Ava, en quoi consiste cet amour dont il est parlé au verset précédent, tu aimeras Hachem ton Dieu ?» En quoi cela consiste? La réponse est « Ve'ayua dvarim ha'ele ». Voilà le lieu où tu pourras trouver l'initiation à cet amour, comme nous l'avons vu très explicitement, enseigné par Maïmonide, citant le Sifré. Le Sifré étant la source du Midrash, qui a été la source de Rachid d'abord. Ça va jusque-là. « Mahoua ava ve'ayua dvarim, shemitorkach atamakir ve'akadosh baruch ». Regardez bien comment c'est écrit dans le Réhem. Vous n'avez pas « ve'akadosh baruch hu » mais « ve'he, ve'he, ve'ha baruch hu ». Mais nous avons l'habitude de lire quand même « ve'akadosh baruch hu ». En général, on met un coup « ve'akadosh baruch hu ». Peut-être que si nous avons le temps, je reviendrai sur cette expression. On traduit par « le Saint béni soit-il ».
C'est ça.
Je reviendrai sur l'expression, si je l'oublie, rappelez-moi, expliquer qu'est-ce que veut dire cette expression, ben, à cadeau de l'autre. Peut-être je vais le faire tout de suite. Parce que ça touche beaucoup à notre définition de Ahava et Ira. Vous vous rappelez, Ahava, c'est l'expérience de la proximité. Alors il y a amour. Ira, c'est l'expérience de l'éloignement. Alors il y a crainte. Ce qui est loin, inconnu, c'est sûr qu'il y a, mais c'est tellement loin, distant de moi, alors j'ai peur. Et lorsque c'est proche, alors je peux connaître par amour. Mais lorsque c'est loin, je connais par crainte. Plus que cela, c'est de la phénoménologie que chacun fera avec sa propre expérience. L'expression Hakadosh Baruch Hu est très parallèle. Hakadosh, littéralement, celui qui est le saint, Kadosh, c'est-à-dire séparé de moi, loin. Hakadosh renvoie à la dimension de transcendance. Baruch Hu, il est lui-même le Baruch, la source des bénédictions. Et ça, c'est la proximité. Vous voyez comment est l'ordre de l'affirmation. Le Kadosh, c'est lui-même le Baruch. Et non pas l'inverse. Ça touche à des problèmes de controverses théologiques. Vous avez entendu parler du filioque qui est entre les uns et les autres. Bon, je laisse ça de côté. Dans cet ordre et pas dans l'autre ordre. Alors, Akadosh, c'est celui que je connais dans la transcendance, le saint absolument, et donc en cela je suis moi, le fini infiniment différent de lui, et lui-même le Baruch, c'est-à-dire la source des bénédictions qui me viennent de lui dans la proximité. Vous voyez ? Et alors que nous avons donc une expression traditionnelle qui nous économise l'utilisation de transcendance et immanence. Quand nous disons Akadosh Baruch Hu, nous affirmons l'unité de la transcendance et de l'immanence dans ce sens-là. Est-ce que vous plaît ? Et en termes de Torah, c'est-à-dire en termes d'expérience religieuse, beaucoup plus qu'en termes philosophiques. La sainteté, c'est la rencontre de ce qui est loin de moi. Et il y a tous les degrés du cheminement, c'est une échelle sous l'âme qui me mène le plus proche. Et plus je m'approche et plus je sais qu'il faut que je m'approche encore, c'est les madrigotes de la sainteté. Il y a Kodesh à Kodashim infiniment. Bon. Baruch, c'est que de celui, de cet absolu de la sainteté, me vient la bracha, la bénédiction, le plus être qu'il y a dans mon être. Et voilà comment donc l'hébreu a diagnostiqué cette catégorie qui en philosophie s'appelle la transcendance et l'immanence. Vous voyez donc les deux limites de l'hérésie possible. Ne connaître que le Kadosh ou ne connaître que le Baruch. Et l'affirmation est ici une affirmation de monothéisme absolu et radical. Hakadosh, Baruch, Hu. C'est lui le Baruch. Le Kadosh qui est lui-même le Baruch. Alors la traduction française, le Saint béni soit-il, a formulé cela tout à fait autrement, sous forme de souhait. Le Saint béni soit-il. Il faudrait dire le Saint béni, il est. Où il est. Il n'y a pas Akadosh Baruch Yihye. Il y a Akadosh Baruch Hu. Ça y est, c'est plus clair. Bon. Je vais ajouter quelque chose au niveau de l'homme. Dans les mêmes catégories, l'homme aurait pour nom l'inverse. Le Baruch Akadosh Yihye. Voilà ce que je veux dire. Qu'est-ce que nous enseigne la Bible? Qu'au début, vous avez compris, au début, Dieu a béni l'homme. Et il lui a donné comme commandement d'arriver à la sainteté. Vous voyez que c'est bien fait. Mais alors, c'est là qu'il faudrait mettre « Iyé » pour l'homme. « Abarur kadosh iyé » d'après le verset « Kedoshim tiyu ki kadosh ani ». Vous voyez, l'histoire de l'homme commence par la bénédiction reçue à l'origine et avec pour objectif la sanctification. Et donc, nous avons là une formule de l'identité, de la conception de l'homme parallèle à la conception de Dieu. Mais vous voyez que dans tous les cas, cela n'est pas formulé en termes conceptuels, mais en expérience de proximité et d'éloignement. C'était les termes les plus simples que j'ai trouvés, si vous voulez, que je vous propose. Et puis, du point de vue de notre problème de connaissance, il s'agit de l'amour et de l'amour et de la crainte. Bien. Donc, Chemitorkar, Ata Makir, Berakadosh Baruchu, Umit Dabek Bidrachab. Et c'est la citation de Rashi, qui est elle-même la citation du chiffré, ce que dit le Réhem, le mot qui suit, Bessifré. Et vous ajoutez un point après Bessifré. Ça se trouve dans le chiffré. Chiffré, c'est une des recensions du Midrash. Explication du Réhem, qui commence là. Deim Loken, parce que s'il n'en était ainsi, que le lieu où je trouverai l'initiation à cet amour, c'est ses paroles. Ehar, Tipol, Azhara, comment pourrait-on me donner une exhortation? Littéralement, comment tomberait l'exhortation? Tipol, Azhara, il y aurait exhortation, sous-entendu à aimer. Bidvar, Shelora, à propos d'une chose que personne n'a vue. Comment comprendre ce commandement d'aimer, puisque je ne sais pas quoi aimer? On me dit, tu aimeras Hachem ton Dieu. Qui sait? Je ne sais pas. Alors tout de suite, le verset dit, et seront ces paroles que je te prescris sur ton cœur. C'est là que tu vas comprendre qui est Hachem ton Dieu. Et vous vous rappelez l'analyse du début. Tout le Sefer Devarim, ça veut dire toute la Torah. Mais puis, en fin de compte, pas des niveaux de tolérance, mais tenant compte de notre petitesse, comprend qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est un. Oui, voilà ce que la révélation, l'essentiel de la révélation nous révèle. Toutes les valeurs, tu pourras les explorer par toi-même. Si tu es vivant, tu connais les valeurs. Mais le fait qu'il y ait unité des valeurs, c'est cela que la Torah révèle. Est-ce que c'est clair? Et lorsqu'on rencontre l'évidence de l'unité des valeurs, alors l'amour est possible. Parce que tant que je rencontre que le chaos des valeurs, alors c'est l'angoisse qui est l'expérience, pas métaphysique ici, mais pas religieuse non plus, comment dire, existentielle. Très bien. Et j'avais une fois comparé, à propos d'une étude du Kriyat Shema d'ailleurs, la différence de sensibilité de la conscience grecque rencontrant le ciel des valeurs dans la guerre des dieux. Vous voyez, on a rencontré l'incompatibilité des valeurs entre elles. C'est le récit de la guerre des dieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, l'inverse dans la sensibilité juive. C'est la révélation qu'il y a unité des valeurs et non pas contradiction des valeurs. C'est la contradiction des valeurs qui renvoie à cette conscience tragique qui est le blasphème pour la conscience hébraïque, qui, elle, parle de la conviction de l'unité des valeurs. Et alors, ça veut dire que la multiplicité est dans l'homme et qu'il faut unifier l'homme et que c'est la règle de la conduite. Et que c'est la définition de ce que cherche la halakha. Comment se conduire de telle sorte que la synthèse des tendances puisse être unifiée. Et non pas simplement ce qui est à l'échelle de toute culture humaine. Comment se conduire dans l'ordre de telle ou telle ou telle valeur à la fois. Faire une constitution d'une valeur à la fois. Disons que la civilisation de la charité ou la civilisation de la justice ou la civilisation de la beauté, etc. Ça, c'est à l'échelle humaine. Il n'y a aucune nécessité de révélation. Mais c'est une constitution, une conception de l'identité humaine fausse parce que, non pas la valeur qu'elle désigne soit fausse, mais parce que partielle et non adaptée et namatima à la vérité du monde. La constitution selon l'unité des valeurs ne peut être que révélée parce qu'elle n'est pas à l'échelle humaine. La Torah Tachem ne peut être que révélée. Alors qu'une Torah de Chesed, elle n'a pas à être révélée. Je vais prendre Chesed, la charité, comme axe central de la conduite et faire une constitution dans l'ordre de la charité. C'est ce que Judas Lévi explique en disant « Il n'y a de religion révélée que la Torah. » Et qu'il ne considère pas du tout ni l'islam, ni la chrétienté comme des religions révélées. Il dit très exactement « Ce sont des philosophies religieuses. » Chacune ayant un axe de valeur et formulant une conception du monde et de la conduite de l'homme dans le monde avec la plus grande chaleur, ferveur, foi possible, mais ce n'est pas de la religion. J'emploie les termes de date dans le sens du Kuzari de Judas Lévi, je le montre tout de suite. C'est de la philosophie religieuse. Et il dit, il n'y a qu'une seule date religion, c'est date, il dit c'est d'ivrei Torah. Il n'y en a pas d'autre. Oui, d'ivrei Torah, date. C'est joli ça, en plus. Oui. Pourquoi ? Encore une fois, parce que c'est précisément cette constitution nécessaire pour que le bonheur d'être soit atteint. Mais impossible à atteindre par les forces humaines, elle ne peut être que révélée. Les mots ayant leur sens simple. Ce n'est pas une façon de parler. Hein. Ce n'est pas une façon de parler, que ça veut dire la capacité de l'intelligence humaine, c'est ça la révélation. Il est toujours du même calibre. Et ça y est, c'est clair. Nous n'avons pas d'exemple d'une civilisation humaine arrivant à formuler la constitution de l'unité des valeurs. Ça, c'est la Torah et c'est la Halakha. Torah Shebichtav et Torah Shebealpe. J'étais parti d'un midrash important dans le midrash Rabba qui dit ceci. C'est que lorsque Dieu a voulu créer le monde, les anges ont commencé à contester. Vous vous rappelez de ce midrash ? La charité dit qu'il le crée, il est capable de charité. La justice dit qu'il ne le crée pas, il ne fait que des injustices. Il n'y a qu'à lire les journaux, vous verrez. Qu'est-ce qu'il y a dans les journaux ? Que les hommes sont capables de charité, mais capables d'injustice. Et puis la vérité dit qu'il ne le crée pas, il ne fait que mentir. À toutes les conférences de presse. Et puis, puisqu'on parle de la presse. Et puis, il y en avait quatre donc, la vérité, la charité, la justice. Chesed ve'emet nivgashu, shalom ve, shalom ve, ken c'est shalom, shalom ve, et j'ai dit les quatre, chesed, ve tzedek nashak, voilà le verset. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait ? La justice, la charité, la paix et la vérité. Bon. Il y a deux contre deux. Donc, l'homme est impossible à créer. Il y a éternellement, il y a contestation de deux absolus contre deux absolus. Comme disent les philosophes, l'homme est une créature impossible. J'ai entendu une fois une très belle analyse de Yankelevitch à ce sujet. C'est un impossible nécessaire. Il existe nécessairement, l'homme, nous sommes là. Et pourtant, philosophiquement, c'est un monstre. Il serait impossible, rationnellement. Et alors, qu'est-ce que dit le Midrash ? Vous allez voir la différence de sensibilité entre le Midrash et la philosophie. Qu'est-ce que dit le Midrash ? Dieu a jeté la vérité à terre. Il ne veut pas entendre la vérité, parce que la vérité a raison. Et pour pouvoir créer l'homme, et faire un décalage dans le vote des anges, deux contre un au moins, alors on peut marcher, alors il fait taire la vérité. Et il crée l'homme. Vous voyez ? Alors, c'est vrai, parce qu'on ne peut justifier l'histoire humaine que si on ne veut pas entendre la vérité. Et alors Dieu n'accepte d'entendre la vérité que lorsque l'histoire réussira. Alors il pourra dire, vous voyez bien que j'ai eu raison de le créer, c'est-à-dire à la fin des temps. Et comment continue le Midrash en disant, dès que les anges, les absolus, les valeurs, voient que la vérité est jetée à terre, Batashler, Emet, Artsa, ils se rebellent. Il n'y a plus de valeur s'il n'y a pas la vérité. Et comment tu méprises le critère des valeurs ? Alors Dieu dit, promesse, la vérité germera de la terre. C'est un autre verset. Et la vérité germera de la terre. Quelle terre ? De la terre de vérité. Et la vérité germera de la terre. Etc. Alors à ce moment-là, Dieu acceptera d'entendre la vérité. Il dira c'est trop tard. Maintenant il est créable. Oui, ça veut dire on peut croire en lui. On pourrait dire ça comme ça. Vous voyez ce qui se passe dans ces midrashs. Ça veut dire que en réalité, ce que le Midrash formule, c'est le jugement des valeurs sur l'homme. C'est l'homme qui est un impossible nécessaire. Et non pas le jugement de l'homme sur le ciel, ça c'est le jugement grec, que le ciel, l'Olympe, c'est la guerre des dieux. Vous voyez qu'il y a une sensibilité radicalement différente. Ça peut Ça va dans le sens de ce que nous venons de voir, que la Torah, en tant qu'elle est la Torah de Hachem Echad, ne peut être que révélée. C'est ce que dit le Talmud tranquillement dans l'expression Torah min hashamayim, que cette Torah ne peut que venir du ciel. Elle ne peut pas monter de la terre, parce que ne montent de la terre que des taureaux d'une ou l'autre valeur. Mais la Torah de l'unité des valeurs, que l'homme, et l'homme sait formuler cette exigence, mais il ne peut pas en avoir le code. Ce code-là, lui, descend du ciel. Et voilà la foi juive. Est-ce que c'est clair ? Bon. Alors, je crois qu'ici, il y a un progrès donc, dans l'analyse, c'est le fait que si tu connais ce Dieu de l'unité des valeurs, alors tu atteins le bonheur de l'amour, etc. Mais tant que tu es devant la perplexité du ciel muet, d'ailleurs, de la guerre des dieux, tu ne peux être que dans l'angoisse de la conscience tragique. Par conséquent, en comprenant les paroles de lui, tu sauras qui est lui. Il y a donc un endroit où atteindre lui, c'est ses paroles. Vous voyez donc l'importance de l'étude de la Torah dans cet enseignement. Et je dis bien de Torah Tachem, tu m'imas Meshivat Nafesh, pas de n'importe quelle Torah qui ne serait pas Meshivat Nafesh, nous revenons aux mêmes catégories. Alors je continue. Bessifré, Deim Loken, Ear Tipo Lazara, Bidvar, Shelora, Veloé Sigme Olam. Et là, par le fait que ces paroles que je te prescris aujourd'hui, chez ma mitzvot, qui sont les commandements de la loi, chez Aliado, Atamakir et Mishamar Veya Olam, à travers qui tu sauras qui a dit, qui a parlé, et le monde a existé, chez Loulé, chez Bara Olam, car si le monde n'avait pas de créateur, littéralement, si il n'avait pas créé le monde, si le monde était antérieur, éternel dans l'antérieur, Dieu préserve, il ajoute, nous n'aurions pas de loi. Il ne nous aurait pas ordonné les commandements. Vous voyez qu'ici, la notion de création est le fondement de la loi. Et qu'on est très loin des analyses kantiennes, mendelssohniennes d'ailleurs, comme nous avons vu hier soir. Et c'est le fait que le monde est un créateur qui fonde la loi. Le fait que le monde soit créé fonde la loi. Parce que ça veut dire qu'il y a une volonté qui juge l'histoire du monde. C'est ça le fondement de la loi. Vous voyez que tout cela est plein, et enfin est très dense de beaucoup de problèmes, mais suivons l'analyse exégétique elle-même. Et par le fait que tu sais, et donc j'ajoute à travers l'expérience de la loi, qu'il y a un créateur, ça veut dire que le fondement de l'obligation morale n'est pas tel ou tel critère qu'auront assigné les moralistes, mais le fondement de l'obligation morale, c'est que j'ai un créateur et que devant lui, je dois faire la preuve que je mérite d'être. Parce qu'il m'a créé du néant et je ne mérite d'être que si je mérite. Et donc, la morale a pour finalité de me faire acquérir le mérite d'être. Il y a une finalité ontologique à la morale. Mais cela ne peut être compris que si je sais que je suis devant un créateur. Parce que sinon, je crois que c'est moi qui suis l'être. Alors, il n'y a plus de fondement à ma moralité. Si c'est moi qui suis l'être, je n'ai pas à mériter d'être, et la morale n'a plus de fondement. C'est clair ? Bon. Vous voyez l'importance d'Abraham. Abraham reconnaît son créateur et fonde la loi morale. Pas par hasard, cette religion-là, c'est la seule, identifie l'expérience du salut et la moralité. Dans toutes les autres religions, c'est distingué. Ça ne veut pas dire dans les autres religions, on permet d'être amoral, mais ce n'est pas par la morale que passe le salut ontologique de la conscience. Ça veut dire dans toutes les autres religions, on sait qu'il y a un créateur, mais on ne sait pas qui il est. On ne sait pas que c'est le créateur qui donne la loi morale. Et qu'est-ce que cela signifie ? Je crois que la révolution d'Abraham, c'est ça. D'avoir rompu avec les anciennes religions païennes du sentiment cosmique de la divinité et fonder la conscience morale comme conscience religieuse. On est tellement habitué que ça semblerait aller de soi, que ça, mais ça ne va pas de soi. Il y a une révolution radicale avec Abraham. Alors je continue. Alors, par le fait, par le biais que tu sais maintenant qu'il est le Créateur, Shebara et Takol qui a créé tout. Ata Ohavo, tu l'aimes. Umit Ave, la Darat, Oto, et tu désires le connaître. Point. Jusque-là, c'est la citation du Sifré que le Rambam lui-même avait cité. C'est clair? Bon. Abal, mais le Réam continue. Abal, a Rambam Zal. Maïmonide, Kata veperek sheni meilchot yesod et Torah. Le Maïmonide a écrit dans ce deuxième chapitre de Sefer Hamadar, la première citation de Maïmonide, et c'est ça qui va mettre en compétition avec le Rashi le Sifré, alors que nous avons déjà appris qu'il y a un autre Maïmonide qui lui se base absolument sur le Rashi le Sifré. C'est clair ? On pourrait déjà s'arrêter là et donner la parole dimanche à Michel. Mais on va continuer le texte. וכתב ככה, בהלכות יסודי תורה, האל הנכבד והנורא ובפלא, ופובי לביר לצ'י. זה דיו, דין דטרונורי, ארדותיו, מצווה לאוהבו, זה פיוני, הקומנמנט דלמי, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך. אינסי כי לתקרי את יאמרה, השם תום דיו. ואיך היא הדרך לאוהבו, וכמו אלו שמי דרי ועשון אמור, qu'il comprenne ses œuvres. Et ses œuvres, ici, selon le Réhem, première citation de Maïmonide, ça veut dire le monde, les sciences. C'est clair ? Mais nous avons vu que pour Maïmonide aussi, ça peut vouloir dire la Torah et la manière dont la Torah nous raconte l'intervention de la Providence dans l'histoire du monde. Je crois que déjà nous sommes au centre du... Vous voyez comment ? Et on risque de s'engouffrer dans des fausses pistes s'il n'y a pas une référence suffisante aux sources que l'on cite. C'est-à-dire, ici, bien évidemment, le Réhem n'a vu qu'une des citations de Maïmonide. Je dois signaler que son fils, donc il s'appelait Israël Mizrahi, dans sa Agdama, a dit, vous verrez la Agdama au Réhem, a dit, je vais éditer ce livre, qui est les enseignements que mon père a donnés de Shabbat en Shabbat pour expliquer Rashi, parce qu'il s'est aperçu que Rashi n'était pas compris, déjà, alors que Rashi avait pour objet de faire un commentaire immédiatement accessible à l'Assemblée, et non pas au Talmid Chachamim. Voilà que déjà, la génération suivante, il fallait être Talmid Chacham pour comprendre Rashi. Et alors, il a dit, comme j'ai vu cela, alors je me suis dit, je vais aider le peuple à comprendre Rashi. Et alors, vous verrez dans la préface du fils du Réhem, il dit, mais je sais que vous pouvez objecter à ce qu'en dit à mon père autant que ce qu'il a dit. Seulement, n'objectez pas sans m'écrire d'abord que je vous dise comment il aurait répondu à votre objection. Vous voyez comment ça marche. Et vous voyez comment il faut se méfier de ce qui est resté par écrit. Okay? Fais-le parler vivant. Ici, alors n'importe quel gamin en colère dirait « Le Réhem n'a pas lu Maïmonide. » Qu'est-ce qu'il n'a pas lu Maïmonide ? Ce jour-là, il a enseigné comme ça. Et si on lui avait demandé, mais il y a l'autre Maïmonide, il leur enseignait le complément. Comme on dit dans la Mishnah, Tana Veshayer. Il a enseigné et réservé ce qu'il n'a pas enseigné. Mais ce qu'il n'a pas enseigné, il était dans sa tête. Ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas écrit dans la marche qu'il n'a pas dans sa tête. Vous voyez, la difficulté de rendre compte d'une tradition uniquement par les traces écrites de bibliographie. Est-ce que c'est clair ? Bon. Nous avons l'habitude dans notre école, on a reçu ça de notre maître, de dire ça avec un peu d'humour, je sais très bien que ça ne sert pas d'argument rationnel. Comment toi, tu as lu l'autre Maïmonide et le Réhem ne l'a pas lu ? Est-ce que tu crois qu'il ne l'a pas lu ? Et déjà, toi, tu l'as lu. Vous savez à quoi ça ressemble ? C'est que nous sommes au fond, c'est clair ce que je dis là, c'est que nous sommes au fond des nains montés sur des épaules de géants. Alors on voit un peu plus loin. Mais si on descendait des épaules de géants, on ne voyait rien du tout. On verrait rien du tout. Vous voyez le problème ? Il y a un très joli apologue des Chassidim qui parle de la révélation de la Torah en disant, mais on a vu l'essentiel, hein, c'est presque fini. Disant ceci, voilà, un jour un homme a entendu dire que sur une grande montagne il y avait une pierre précieuse. Et alors il a fallu du temps avant que quelqu'un se décide à monter sur la montagne. Il est allé, il a trouvé la pierre précieuse. Il est descendu, épuisé de cet effort, il a dit, c'est une pierre précieuse. et il est mort. Après, d'autres se sont rassemblés au pied de la montagne et ont commencé à gloser sur la pierre précieuse. Alors un a dit, hey, vous savez, elle est bleue. Un autre a dit, vous savez, elle a telle forme. Qui savait plus? Qui avait plus de mérite? Celui qui a descendu la pierre précieuse ou ceux qui se sont installés autour pour dire, ah, vous savez, nous voyons quelque chose qu'il n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il n'a pas eu le temps de le dire, il est mort avant. Est-ce que vous comprenez l'importance de ce problème? Bon, alors en réalité, ça veut dire que le réel nous situe une controverse. Je continue. Cheikh Bonen Bemarasa vous prouva Vaniflaïm Abdolim, Veire Hochmato, Chen Lo Erech, Veloket, Umiyad Uohev, Umeshabeach, Umefaer, Umitaveta Avagdola, Ledar Hashem Agadol, Kemo Sheamar David, Tzaman Afshil Elokim Leel Chai, Veleadvarim Enam Alpi Midrash Zal. Ça, c'est ce que le Réhem ajoute. Et toute cette citation de Maïmonide jusque-là, ce n'est pas selon le Sifré. Pourquoi? Parce que le Sifré veut dire, il faut que tu étudies les paroles de la Torah pour aimer Dieu. Alors que le Rambam semble dire là, il faut que tu étudies le monde pour aimer Dieu. Vous voyez comment est là la controverse. Chez Amrou Bessifré, chez Aliédé Advarim Aélé, chez Anochim et Savecha, chez El Amidzvot, Amidzvot, Takir et Taboré, Véhu, Vélo Aliédé Maasav ou Groua Vaniflaïm, Véchema Yishlomar. Et peut-être on peut dire, voilà, hypothèse que nous propose le Réhem pour résoudre la contradiction qui, en fin de compte, peut-être n'est pas une contradiction. Okay. Il faut situer chaque voie de la connaissance à sa place. Ça, nous étudierons dimanche. Shema Yishlomar, Shebe Asiyat HaMitzvot, en pratiquant les mitzvot, le commandement, et Yate Levavo, alors il sera mené à tendre son cœur. L'achkor al sheametzave ou aboré, sur ce fait que celui qui lui a ordonné ses mitzvot, c'est le Créateur, et s'occuper de comprendre quelle est son œuvre. Boré et aolam, veyasim et libo mitorkar litbonen bemaasa. Et par là même, viendra à l'étude du monde, ubroa avec ses créatures aniflaïm, merveilleuses, veyiremen chokmato, et par là il verra, il découvrira la grandeur de sa sagesse. Et ça veut dire quoi ici, dans l'hypothèse du réel? Que celui qui sait que c'est Dieu qui a révélé les mitzvot, qui a créé le monde, va s'approcher de l'étude du monde, pas comme un savant, purement et simplement, mais comme on s'approche de l'étude d'un monde qu'on connaît déjà comme créé. Et effectivement, étudier un phénomène du monde, en tant qu'on le connaît comme ayant un créateur, n'aboutit pas à la même sagesse qu'étudier ce même phénomène du monde comme s'il n'avait pas de créateur. Il y a une attitude préalable de la foi qu'il aura eue dans l'étude de la Torah. Umiyad, et immédiatement il l'aime, et il désire connaître, le connaître. Et Vézé Cheramrou, Zalbe Sifré, et ce serait cela, l'allusion qu'il y a dans le Sifré, Vé Mahamar, Shemitor Kachatamakir, Vé Akadosh Baou. Voilà, nous avons vu l'essentiel. Alors que le Maharal, lui, va purement et simplement lire le Rashi en tant que Vayu Advarim Ha'ele, c'est l'étude des mitzvot. Bien, nous sommes arrivés à l'heure. Dans tous les cas, s'il reste encore quelques notions pas claires, nous aurons largement le temps dimanche, une minute, de l'étudier. Alors je vous rappelle que dimanche à 10h30, Michel Presse commencera le cours sur les voies de la connaissance dans le Kli Yakar jusqu'à 12h30. Ensuite, à 3h, nous avons la conférence de l'après-midi. Et puis, à 5h, la table ronde. Shabbat Shalom. Merci.